Bonjour très chers auditeurs, Catherine dans À Votre Santé, notre émission mensuelle autour de la santé et du bien-être au naturel. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce week-end. Alors, au sommaire de notre émission, Margot et sa chronique enceinte et sportive. Mais oui, c'est possible et c'est même recommandé. Et puis, dans notre dossier, un thérapeute, un vélo, des Moxa. J'ai l'immense plaisir de recevoir Gaëtan qui va nous parler de sa fabuleuse aventure. Puis Samuel nous parlera de l'intelligence. Et dans ma chronique, j'ai aimé un film, Voyage en pleine conscience, le quotidien et la philosophie d'un village du sud-ouest, pas très loin de chez nous d'ailleurs. Et dans la rubrique trucs et astuces, un remède contre les piqûres pour cet été et bien plus. Voilà, donc tout de suite, Margot, à vos marques, prêt, bougez. Bonjour Margot.
Bonjour et bienvenue dans une nouvelle chronique sport. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Peut-on faire du sport lorsque l'on est enceinte ?» Beaucoup de femmes se posent cette question-là et on va essayer aujourd'hui de voir un peu tout ce que l'on peut faire lorsque l'on est enceinte. Donc effectivement, on peut faire du sport, mais attention, pas n'importe lequel. Effectivement, aucune grossesse n'est la même pour telle ou telle personne, mais environ 99% des grossesses font grossir et sont parfois pénibles, on ne se sent pas franchement au top de sa forme et on n'a pas vraiment envie de faire du sport. Et c'est bien normal, d'accord ? Il faut se mettre en tête que lorsque l'on est enceinte, on est déjà un peu en condition, voilà, comme si c'était un sport d'endurance. Hein. L'activité de base de l'organisme s'accroît de 10% dès le début de la grossesse et on estime que la femme enceinte a besoin de 25% d'oxygène supplémentaire. Il est donc très important de doser ses efforts et de connaître ses limites pour éviter tout problème et toute complication. Donc la première chose, il faut immédiatement oublier toute notion de performance et ne rechercher que le plaisir, l'entretien. Hein, pour les compétitions, ça, on verra plus tard. D'abord, demandez à votre médecin ce que vous pouvez faire. Votre médecin doit être au courant de la pratique sportive pour vous conseiller sans pour autant vous restreindre. Hein. Il est probable aussi qu'il déconseille toute activité sportive, par exemple en cas de jumeaux. Dans tous les cas, vous devez avoir l'avis de votre médecin pour savoir si vous pouvez continuer à faire du sport. Mais en règle générale, le sport est quand même vraiment bénéfique lorsque l'on est enceinte. Déjà, d'une, parce que la pratique d'une activité permet de maintenir un bon état psychologique et de limiter le stress lié à la grossesse. C'est également un excellent moyen de garantir une bonne condition physique et de contrôler son poids. Mais les bienfaits du sport ne s'arrêtent pas là. Une activité physique régulière pourrait être bénéfique pour la prévention ou le traitement des maladies fœto-maternelles, par exemple le diabète gestationnel et la pré-éclampsie, qui est une hypertension artérielle qui peut survenir à partir du second mois de grossesse. Pour les femmes en surpoids, par exemple, ou à risque d'obésité, l'activité physique régulière va permettre de réduire l'excès de prise de poids et donc de diminuer les risques de complications liées à l'obésité lors de la grossesse. Donc le sport est recommandé, mais alors quel type de sport ? Hein, il y a quand même des contre-indications et plusieurs choses très importantes en matière de sport qu'il ne faut pas faire. Par exemple, il ne faut pas solliciter les abdominaux superficiels, hein, que l'on appelle les grands droits, ceux qui font un peu la plaque de chocolat. Donc ceux-là, il ne faut absolument pas les solliciter lorsque l'on est enceinte, car ils pourraient déformer vos abdominaux après votre grossesse. Ensuite, évitez tout sport qui va vous essouffler. Hein, on évite de réduire son taux d'oxygène car le bébé a besoin d'oxygène pendant la grossesse. Donc, l'organisme n'a aucune réserve d'oxygène supplémentaire allouée au bébé, comme par exemple, on pourrait avoir des réserves d'eau et d'alimentation pour le bébé, mais l'oxygène, lui, n'a aucune réserve spécifique pour le bébé. Donc si vous êtes essoufflé, votre bébé va aussi être en manque d'oxygène. Donc évitez les activités trop cardio et donc aller plus vers des activités douces. D'accord. Pas de sport d'impact non plus. Hein. On évite tous les sports de contact, les sports de combat, les sports tels que le step, les sports de fitness où on saute dans tous les sens. Ça, on évite. Hein. Le VTT, le ski et même la course à pied hein, parce qu'il y a beaucoup quand même d'impact. Et Donc vos grands droits dans un premier temps vont être sollicités pour protéger votre dos. Donc ça, on a dit qu'il fallait éviter. Et les petits seaux vont exercer des micro-pressions permanentes sur votre plancher pelvien, ce qui n'est pas du tout bon pour votre bébé et pour sa croissance. Donc on reste sur un peu de renforcement musculaire pendant la grossesse, qui est utile pour muscler son dos, garder des jambes toniques et se sentir bien surtout, mais avec des charges raisonnables. On reste au poids du corps qui est déjà plus élevé que la normale avec le poids du bébé et on essaye d'y aller tranquille, d'accord? Pendant la grossesse, la physiologie naturelle est de perdre en masse musculaire. Donc ne vous inquiétez pas si vous perdez un petit peu dans vos activités, c'est tout à fait normal, prenez votre temps. La conclusion, c'est qu'enceinte, c'est encore plus une question de modération. Le un peu, mais pas trop, le self-control, l'écoute de soi et pas des autres. Donc prenez votre mal en patience, ça ne dure que 9 mois. Après, vous pourrez reprendre votre sport tout en douceur et progressivement retrouver votre niveau d'avant. Mais pour le moment, on prend soin de soi et on s'écoute. Voilà, je vous remercie beaucoup. À la prochaine pour une nouvelle chronique.
Merci Margot, à très bientôt. Tout de suite, une pause musicale. Janis Joplin, Cosmic Blues. À tout de suite dans À votre santé.
Yeah.
Catherine, dans À votre santé, notre émission mensuelle autour du bien-être et de la santé. Alors, tout de suite, le dossier. Le dossier, j'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui Gaëtan Wilfried pour un thérapeute, un vélo et des Moxa. Me direz-vous, est-ce que tout ça, ça va bien ensemble? Mais oui.
Ça va très bien ensemble, Catherine.
Bonjour Gaëtan.
Bonjour Catherine.
Alors, un thérapeute, parce que tu es thérapeute.
Parce que je suis thérapeute, hein, tout à fait. Ouais.
Alors, tu es dans la région?
Alors, je suis dans la région de Caussade, plus précisément. Mais j'irradie, enfin voilà, sur un périmètre de 30 km autour de Caussade, on va dire, jusqu'à maintenant. Et donc, je suis praticien en santé naturelle. C'est mon titre que me donne ma première formation, essentiellement en médecine chinoise. Et un terme japonais donc qui est okuyasan et qui signifie donc praticien en moxibustion, pratiquant de moxibustion en particulier. Voilà, qui est la thérapie dans laquelle j'ai souhaité vraiment me spécialiser.
Alors tu es arrivé vers les moxa de quelle manière? Déjà qu'est-ce que c'est les moxa? Tout le monde connaît pas, parce que il faut savoir que dans ta pratique tu es le seul en France à
être autant formé, en tout cas, je pense.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc, la moxibustion, c'est une pratique que souvent les personnes vont rencontrer quand ils vont chez des acupuncteurs ou des médecins en médecine chinoise. Et la moxibustion est utilisée souvent en complément à l'acupuncture, hein, comme un moyen, utilisé dans tout l'arsenal thérapeutique de médecine chinoise pour traiter des troubles de santé. Au Japon, donc, ils ont raffiné cette pratique-là, ils ont créé de nouvelles techniques et en ont fait une approche à part entière. Donc la moxibustion japonaise, du coup, est un peu différente de la moxibustion chinoise. Et je suis focalisé, moi, sur la moxibustion japonaise. Donc ça consiste à chauffer des zones du corps ou des points d'acupuncture dans l'objectif de réguler des problématiques de santé.
Et de les chauffer avec...
Avec une plante, donc, ouais, tout à fait, qui est l'armoise. Hein, qui subit tout un processus de transformation, souvent industrialisé en fait, pour obtenir ce qu'on appelle le moxa, hein, c'est-à-dire la matière directement transformée, avec laquelle on va pouvoir façonner avec nos mains des cônes, qui vont varier en taille, hein, donc soit des cônes tout petits.
Oui, parce qu'on connaît aussi les moxa comme des gros cigares, hein, c'est pas du tout ça, toi. C'est, ouais. C'est vraiment le cône et c'est tout petit.
Alors c'est tout petit, voilà, ça fait la taille d'un grain de riz en fait. Oui. Souvent, donc, et la stimulation s'apparente du coup quand on fait un grain de riz beaucoup plus à une piqûre. Mm-hmm. Hein, c'est une piqûre de chaleur, une piqûre thermique, au lieu d'être une aiguille, hein, finalement.
Mais ça rentre pas dans la peau.
Mais ça rentre pas. Voilà, il y a juste la chaleur, hein, qui pénètre. Mm-hmm. Et on peut aussi avoir des cônes de la taille d'un pouce, qui sont des techniques qui nous permettent de nous adapter en fait à la fois à la condition physique du patient sur le moment et aussi à l'état des tissus, c'est-à-dire selon la profondeur des points dans le corps, on va utiliser des cônes plus ou moins petits ou plus ou moins gros, pour adapter vraiment l'intensité du traitement aux tissus, aux conditions des muscles et des points d'acupuncture.
Et pour quelles indications? Alors, quel traitement? Comment tu travailles? Avec quelle personne? Quelles sont les indications?
Les indications
des moxa.
Alors, moi, aujourd'hui, vraiment, les grands problèmes, grands troubles de santé sur lesquels la moxibustion est particulièrement efficace, c'est tout ce qui va être la sphère respiratoire, mm-hmm. La sphère intestinale, gynécologique. Où vraiment voilà, ça a fait ses preuves et au Japon c'est vraiment recommandé d'utiliser la moxibustion pour ça. Mais après le panel est tout aussi large que l'acupuncture, c'est-à-dire qu'on peut accompagner n'importe quelle problématique de santé par la moxibustion, même si en effet je garantis peut-être moins de résultats que sur les troubles respiratoires, intestinaux ou gynécologiques. Mais en tout cas voilà, ça peut, et même psychologique, hein, des problématiques de émotionnelle ou voilà.
Ça peut parce que ça fait déjà pas mal de temps que tu expérimentes depuis ta formation. Voilà, tu as déjà des bons retours.
Alors j'ai des bons retours, ouais. En fait, bon, la première rencontre avec la moxibustion, pour moi, elle s'est fait la moxibustion japonaise, je parle. Elle s'est fait en 2015 lors d'une formation en myo-énergétique, qui est un travail sur l'équilibre postural. Et donc, parmi les techniques employées par Hiroshi Iwaoka, donc le concepteur de la myo-énergétique, il y a une des techniques de moxibustion, qui est la technique du grain de riz. Et donc voilà, en 2015, je rencontre cette pratique-là. Et ensuite, donc je me forme depuis 2015 finalement dans.
Donc tu as été formé à Paris, à Barcelone.
Voilà, à Paris, à Barcelone. Donc Barcelone qui a été vraiment dans l'école OQ Barcelona, qui est donc aujourd'hui en Europe la seule école à transmettre un panel aussi large de techniques de moxibustion, hein, qui nous permettent voilà de pratiquer sur un champ. Très très large de troubles de santé en fait, hein, voilà, qui vont des troubles musculo-squelettiques aux problèmes organiques, au stress, problèmes émotionnels, voilà, rectifier la posture, soutenir un organe, voilà, accompagner des on pourra peut-être en reparler, accompagner des effets secondaires aussi sur des traitements de chimiothérapie dans le cas des cancers, des maladies auto-immunes, voilà, où c'est voilà, là aussi j'observe des résultats très significatifs et intéressants, hein.
Et d'ailleurs, donc tu travailles là, tu interviens dans différentes structures,
ouais.
Comme les EHPAD, qui t'ont ouvert leurs portes, et je trouve ça magnifique. C'est
ouais, tout à fait. Alors ça commence à émerger. C'est vrai que mon entrée dans l'EHPAD, en fait, dans les EHPAD, parce que j'en ai fait plusieurs. En l'occurrence, donc à Sept-Fonds, j'ai été à Sept-Fonds, à Montech, à Escatalens. Et là, la porte d'entrée, souvent, c'est le bien-être et le confort, plus que le thérapeutique. Et donc, c'est la technique du nursing touch, donc, qui est une technique d'effleurage, hein, qui nous permet vraiment d'entrer en contact, de proposer un espace d'écoute et un confort aux patients.
C'est magnifique,
fait rentrer, en fait, dans les EHPAD, le nursing touch. Et après, derrière, une fois qu'on est rentré avec ça, en effet, on peut peut-être proposer d'autres choses qui vont avoir des résultats un petit peu plus rapides ou de soulagement, en durée de soulagement un peu plus conséquent. Et voilà, donc là c'est les balbutiements. C'est vrai que je pratique encore beaucoup le nursing dans les EHPAD, mais petit à petit je pense que la moxibustion va arriver, ouais.
Et ce serait bien aussi de la faire connaître davantage. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que tu as un superbe projet. Donc je disais tout à l'heure, un vélo. Un thérapeute, un vélo, des Moxa, un vélo. Pourquoi un vélo?
Pourquoi un vélo? Déjà parce que c'est une passion pour moi, le vélo.
Oui.
Ça fait une quinzaine d'années à peu près que je fais pas mal de vélo. Moi, j'ai commencé en tant que cyclo sur route, hein, donc je faisais pas mal de vélo sur route. Après, j'ai beaucoup utilisé mon vélo aussi pour mes trajets, domicile-travail. Donc, c'était au début pour l'université quand j'étais étudiant. Quand j'ai eu aussi à mon cabinet à Castanet-Tolosan, je prenais le train à Caussade avec mon vélo, et puis après de Toulouse Matabiau, j'allais par le canal à Castanet, le vélo, 14 km aller, 14 retours.
Wow.
Et donc du coup ça me plaît beaucoup, ce mode de déplacement là me plaît beaucoup. Et là je voulais je rêvais en fait aussi il y a une dizaine d'années de faire un tour de France. J'avais pensé juste déjà rallier la région de la Touraine où j'ai de la famille en vélo. Bon, ça s'est jamais fait. Mais ce projet-là était toujours dans un coin de ma tête. Et donc là, pour en dire plus sur le projet, finalement, l'objectif, c'est de promouvoir une thérapie donc, qui est la moxibustion japonaise. La deuxième passion que j'ai, finalement. Et donc, associer ces deux passions-là, c'est un peu l'objectif de ce projet. Le vélo et la moxibustion. Donc, me déplacer à vélo pour un tour de France. Afin de promouvoir la moxibustion japonaise. Voilà, c'est l'idée du projet.
Et Gaëtan est en plein et dans son Tour de France à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Il est dans son Tour de France. Tu es à Tours.
Je suis
en ce moment.
Ouais.
Et donc ce projet, voilà, tu es parti de Montauban
début juillet,
tu rentres fin août.
Je rentre fin août, ouais, hein, c'est ça.
Et Gaëtan, donc, bah, si vous pouvez le retrouver, hein, pour son Tour de France, vas-y, tu vas nous l'expliquer parce qu'il a aussi besoin de nous tous. Ce Tour de France, hein, c'est emmener la moxibustion un petit peu partout, pas seulement la faire découvrir, mais offrir des soins.
C'est,
hein,
ça.
C'est ça. Tu offres des soins pendant ton périple.
Pendant mon périple, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est vraiment de contre-hébergement, par exemple, ça peut se
faire.
Voilà. Les personnes qui souhaitent m'héberger, bah, je viens pratiquer chez elles. Elles peuvent inviter des amis.
Voilà, les soins sont offerts. Ça veut dire que c'est gratuit. Donc, voilà, en échange d'une assiette, d'un petit repas ou d'une nuit, voilà.
Tout à fait. Tout à fait. L'idée, c'est d'être dans l'échange, dans le partage aussi. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me nourrit beaucoup, moi. Et alors pour ajouter en fait un aspect aussi à la jeunesse du projet et le pourquoi ce Tour de France, c'est aussi que dans un des travaux que j'ai aussi actuels que j'avais, parce que là je suis en Tour de France, mais je me déplace aussi beaucoup dans les campagnes en fait, et je suis conscient et j'ai devant mes yeux en fait aussi le phénomène d'isolement social des personnes,
oui,
âgées,
mmh,
et le phénomène de désertification médicale. Et au tout début, je voulais intervenir spécialement dans les déserts médicaux en fait, donc c'est-à-dire proposer la moxibustion japonaise en particulier dans les déserts médicaux pour apporter finalement un peu de soins qui manquent. Voilà, je suis pas,
oui,
là pour remplacer la médecine, mais il y a moyen de soulager, d'apporter du bien.
Et même plus que ça.
Et c'était,
hein,
l'idée.
Et même plus que ça. Ouais.
C'était l'idée. Donc voilà. Bon, mon projet s'est redéfini un peu parce que les déserts médicaux sont très difficiles à classifier en France. On a des critères en fait qui sont il y a plusieurs critères pour définir un désert médical. Le premier, c'est le nombre de médecins pour 1000 habitants. Et le deuxième, c'est souvent l'accessibilité aux médecins, donc en termes de distance et de durée de temps de trajet, en fait. Et étonnamment, en fait, quand j'ai associé les deux critères, c'est tout la zone du bassin parisien qui était touchée, donc c'est-à-dire la grande zone tout autour de Paris, avec Orléans, hein, donc qui en fait partie. Mm-hmm. Et donc j'allais partir pour faire le Tour de Paris. Bon, c'était pas très intéressant pour moi en termes de paysage,
de périple.
Voilà, ouais, c'est ça. Bon, parce que j'ai aussi à cœur de profiter un petit peu de voyager, de découvrir notre belle France. Et donc voilà, tout ça pour, je ferme la parenthèse, c'était pour annoncer, mm-hmm, un peu l'aspect, voilà. Je pense aussi que parmi certaines techniques de moxibustion, il y en a quelques-unes qui peuvent se transmettre. Donc, lors de mon passage, je vais faire découvrir, pratiquer concrètement sur des personnes. Mais il est aussi possible d'utiliser des techniques de moxibustion dans un cadre familial. Et dans ce cas-là, en fait, on peut permettre aux personnes, ben, dans la famille, de se soulager des fois entre eux pour des petites problématiques de santé.
Ah oui, donc tu vas pouvoir montrer, expliquer comment utiliser soi-même, comment être autonome, même par rapport
à certaines techniques de moxibustion. Voilà. Il y en a quand même beaucoup qui demandent beaucoup de pratiques.
Oui,
trop dangereux.
Bah, j'imagine bien. Hein, tu as fait une formation très pointue, tu t'entraînes énormément. On peut pas du jour au lendemain remplacer ta pratique. C'est.
Ouais. Mais en tout cas, se faire du bien, soulager à minima dans un cadre familial, c'est possible.
Très bien, donc nous allons faire une courte pause et tout de suite après nous retrouvons à nouveau Gaëtan pour son Tour de France à vélo pour faire découvrir et proposer des soins gratuits avec les Moxa. À tout de suite, Youssoundour, 7 seconds.
Battle's not over. J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer. Seven seconds. Just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away. Or just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting.
Si vous venez de nous retrouver, Catherine, pour dans À notre santé, à votre santé, à notre santé à tous d'ailleurs. Et pour le dossier aujourd'hui, eh bien, je reçois Gaëtan Wilfried. Gaëtan Wilfried qui est thérapeute, mais pas seulement, un super cycliste avec ses Moxa. Gaëtan, donc est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ta pratique et ce que sont les Moxa?
Oui, alors ma pratique est dans le projet en cours là actuellement, c'est le Tour de France à vélo pour la promotion de la moxibustion japonaise, donc qui est la pratique principale que je fais aujourd'hui en cabinet en fait, et que je propose durant tout ce Tour de France à vélo.
Voilà, tu sors de ton cabinet et tu vas offrir des soins.
C'est ça, ouais. L'idée c'était aussi de pas attendre que les gens viennent à moi, mais parce que là la moxibustion est pas du tout connue.
Et oui, tu es l'un des seuls en France à faire cette pratique.
Voilà, on est très peu nombreux et à être formés peut-être autant. Je pense en effet qu'on n'est pas beaucoup. Et donc là, l'idée c'était d'aller vers les gens, voilà. Et c'est aussi un challenge pour moi. Il y a un aspect aussi derrière de me challenger, sortir. On parle beaucoup de la zone de confort, voilà, tout ça. Sortir de sa zone de confort, en fait, ça nous rend plus vivants, ça nous rend plus authentiques. Et je pense qu'on a besoin en fait de ça aujourd'hui parce qu'on on vit tous un peu de manière isolée dans, voilà, dans nos petites bulles.
Et on a besoin de personnes inspirantes. Hein. Tu me disais tout à l'heure que toi, tu avais un peu démarré ce projet parce que tu avais été inspirée, mais tu es une personne inspirante et ce projet, j'espère en tout cas, va donner l'envie à d'autres dans leur domaine hein, de...
Bah je l'ai vu déjà dans la préparation du projet hein, qui a duré à peu près un peu plus d'un an.
Oui.
Et sur la fin, en fait, quand j'ai commencé à communiquer, à diffuser aux personnes que j'allais faire ce Tour de France, voilà, si vous voulez me soutenir ou m'aider d'une manière quelconque, j'ai beaucoup de praticiens et de thérapeutes qui m'ont dit ouais, ce projet est super. Et,
bien sûr,
et,
c'est magnifique.
Et ça donne envie en fait.
Oui,
et...
donc là, en ce moment, hein, je rappelle, tu es du côté de Tours.
De Tours, ouais.
Vous pouvez donc contacter. Gaëtan, hein, vous tapez simplement Gaëtan Wilfried, Wilfride, et sur internet et vous trouverez son site, son blog, son projet. Voilà, donc ce projet là, il a démarré.
Il a démarré concrètement. Je suis parti le 1er juillet de mon domicile. Là, c'était vraiment pour l'aspect symbolique. Et
ouais.
Le départ plus officiel s'est fait à Montauban, au Port-Canal, où j'ai eu la chance de partir avec un vélo-bus, c'est-à-dire avec plein de cyclos qui étaient avec moi sur les premiers kilomètres jusqu'à Montèche. Et donc là, je me trouve en fait maintenant dans.
Et tu es passé après Montauban, alors ton périple.
Alors, l'itinéraire, donc ça a été les premiers, la première partie. Donc c'est Montauban. J'ai pris le canal en fait hein, du Midi pour rallier Bordeaux, avec un petit détour par Villeneuve-sur-Lot où là j'ai eu la chance d'intervenir dans une université d'été pour présenter mon projet. Donc Bordeaux, et ensuite j'ai rallié Bordeaux par une route en fait spécialement conçue pour les vélos, bien que voilà, on emprunte aussi des petites routes où il y a des voitures hein, l'Eurovélo 3 donc qui s'appelle, qui rallie Bordeaux à Tours. Voilà, en passant par Angoulême, Poitiers, etc. Et là maintenant,
et là, tu vas rejoindre...
je vais m'acheminer maintenant, la direction c'est direction l'Alsace.
Oui.
Direction les Vosges et l'Alsace. Et donc là, je vais passer en fait par Nevers, par Besançon, par Mulhouse, et ensuite donc direction Strasbourg, où là, j'aurai de la famille, donc un petit peu pour un peu de confort.
Voilà, t'accueillir. Mais oui, parce que là, tu es sur les routes, tu as une tente, tu as tout ton matériel sur le vélo.
C'est ça, exactement. Ouais.
Et tu chemines sans savoir forcément où tu vas dormir le soir.
Dormir. Ou, voilà, hein. Qui est en effet ce qui est très plaisant parce que il y a un petit stress en fait la nuit quand on doit rechercher le bivouac, c'est à la fois stressant, on se dit ah là la nuit va commencer à tomber, il faut que je trouve un bivouac. Et
en fait les gens sont super sympas, tu fais de belles rencontres hein, ouais. Donc tu nous en parleras peut-être après,
ouais.
Après le voyage hein, tout ce qui s'est passé ça fera l'objet d'une autre émission si tu veux bien
ouais.
Hein, on va pas tout dévoiler, on va laisser un petit peu de suspense, mais là il y a vraiment des choses croustillantes, ça fera l'objet d'une autre émission.
Ouais, ça marche. Et donc juste pour parler un peu de donc par rapport à ces villes que j'ai annoncées, Nevers, Besançon, Mulhouse, Strasbourg. Donc sur ce périple là en fait, là la deuxième partie, je recherche voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent m'héberger, donc elles peuvent me contacter hein, donc en inscrivant Gaëtan Wilfried sur voilà, vous cherchez sur internet puis vous aurez mes coordonnées très très rapidement. Et voilà, donc en échange de soins,
un hébergement, un repas, ou
une douche,
voilà,
une lessive,
des choses comme ça ou hein, c'est sympa.
Voilà, donc il y a ça. Et puis donc la troisième partie pour dire du coup la troisième partie du périple, ça va être donc de Aix-en-Provence jusqu'à Toulouse, Montauban. Donc en fait je vais rallier hein, Strasbourg, l'Alsace, là je prends le train, je descends jusqu'à Aix-en-Provence. Et ensuite de Aix-en-Provence je vais revenir donc par la côte, longeant en tout cas Béziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse et ensuite Montauban. Voilà, donc s'il y a des personnes également dans ces
parages-là, dans ces zones-là qui peuvent
qui veulent me rencontrer, voilà, je peux aussi proposer des conférences, et des soins surtout, ouais.
Des soins gratuits pour tous. Ah, parce que ça s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants.
Qu'aux enfants.
Comment, voilà, pour quelles, rappelle-nous un petit peu, pour quelles indications les MOXA,
indications.
Ce type de soins.
Ouais, pour quelles indications? Alors les grands groupes de santé sur lesquels vraiment ça a été efficace jusqu'à maintenant, où c'est reconnu au Japon et au moins en effet j'ai pu l'observer, c'est tout ce qui est troubles respiratoires, troubles intestinaux,
oui.
Troubles gynécologiques. Voilà, c'est vraiment là où c'est le plus efficace. Et ensuite, bon, voilà, le panel est très très large. Ça traite autant de problématiques que l'acupuncture, donc des problématiques émotionnelles, du stress, voilà, des défaillances organiques, des reins qui fonctionnent pas trop bien.
Oui, parce que ça ne s'adresse pas seulement au corps physique, mais aussi au corps émotionnel.
Ouais, tout à fait. On peut calmer des émotions, des angoisses.
Ah oui.
Ouais, tout à fait. Et au niveau des publics, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les personnes âgées jusqu'à maintenant, donc c'est aussi adapté aux personnes âgées. En fait, c'est juste une question d'intensité de traitement. La moxibustion est adaptée pour tous,
voilà.
Mais par contre, pas à la même intensité de traitement. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter en termes de durée de chauffe, en termes d'intensité de chaleur aux patients. Voilà.
Et une séance, ça dure à peu près combien de temps?
Et une séance, c'est entre, voilà, il faut compter 45 minutes généralement.
D'accord.
On fait pas beaucoup plus, sinon on peut fatiguer. Voilà, donc 45 minutes, c'est la moyenne en général. Voilà, et les publics, donc personnes âgées, adultes, sportifs, femmes enceintes, on peut également. Il y a des points qui sont interdits, en fait, mais
oui,
là aussi, c'est.
Dans toutes les pratiques. Hein.
Là aussi, c'est toujours une question d'intensité, finalement.
Tout
un point
fait.
Interdit peut aussi être stimulé, des fois, voilà, question qu'il le soit de manière raisonnée et d'intensité juste. Et les enfants, donc, ça peut aussi être également un public, ouais. Et moi, là, les derniers mois, en fait, qui ont précédé mon départ, je suis beaucoup intervenu aussi au centre ressources, donc, à l'occasion, au centre ressources de la Française Occitanie, qui est proche de Montauban, qui est un centre qui accueille les personnes qui ont le cancer, ainsi que leurs proches et leurs familles, et qui propose donc des soins individuels et des ateliers de groupe à ces personnes-là. Voilà. Et là, je suis intervenu dans ce cadre-là en proposant de la moxibustion les trois derniers mois, en fait, avant mon départ. Et j'ai observé, voilà, des effets vraiment très, très intéressants sur les douleurs en particulier, accentuées, en fait, par les traitements de chimiothérapie. Les effets secondaires aussi. Bon, là, on n'a pas un effet sur tout, mais en tout cas, j'ai vraiment observé des grands soulagements. Et le centre ressources, donc j'en profite aussi pour dire le centre ressources qui me sponsorise pour ce Tour de France et que je remercie vraiment pour la confiance qu'il m'accorde. Et dont je vais aussi faire la promotion durant ce Tour de France puisque j'aurai un petit fanion à l'arrière de mon vélo, un petit drapeau orange aux couleurs du centre ressources. Donc l'idée, c'est aussi d'être un peu ambassadeur. Donc je fais la promotion de la moxibustion japonaise pendant le tour, mais c'est aussi l'idée d'être ambassadeur des centres ressources en France qui émergent de plus en plus. Hein.
Oui, qui font du beau travail.
Vraiment, qui apportent, qui apportent finalement plus que les soins en fait et les activités de mieux-être. C'est vraiment l'humain, la relation humaine. Moi, j'ai l'impression, en fait, les trois derniers mois, quand je suis intervenu au centre ressources, d'avoir été dans une seconde famille.
Ah oui.
C'était comme une deuxième famille. Il y a, voilà, des sourires, des échanges, on partage des repas, on partage, voilà, c'est pas juste je viens consommer un soin, c'est je viens dans un centre.
Un protocole carré.
C'est ça, on n'est pas là-dedans, non. On est dans l'adaptation.
T'aurais pas pu d'ailleurs intervenir si ça n'avait pas été comme ça, te connaissant.
Ouais, voilà.
Avec ta belle dimension humaine.
L'écoute, le cœur, ouais. L'humain, la présence, l'attention à l'autre et le partage, c'est des valeurs qui sont en ressource, ça.
Tu vas emmener avec toi sur ton vélo et promouvoir aussi.
Aussi ces centres-là qui naissent, en fait. Voilà. Ouais. Il y en a un à Aix-en-Provence qui est le premier, donc qui a été lancé par l'oncologue Jean-Loup Mouisset. Dans 2012, il me semble. Ensuite, il y a eu, bon, voilà, Montauban, Montélimar. Là, il y en a qui se montent à Paris, Lyon. Donc, c'est en plein essor. Et voilà, ça a le mérite d'être connu.
D'être dit et connu. Voilà, tout à fait.
Ouais.
Hein, donc, vous pouvez retrouver Gaëtan Wilfried en tapant simplement son nom sur Internet, son beau projet de Tour de France à vélo pour faire découvrir et offrir des soins en moxibustion. Hein, l'amoxibustion, ce sont ces petits cônes en armoise qui vont chauffer.
Voilà, générer de l'énergie aussi, donc une action.
Pour soulager, mais pas seulement, pour soigner aussi. Hein.
Ouais, c'est-à-dire pour bon, le terme de soigner, moi je l'emploie pas souvent parce qu'il a,
oui,
il a une connotation.
Prendre des précautions aussi.
Voilà, vis-à-vis le corps médical, mais aussi surtout parce que j'ai dans ma conception de comment le corps se régule et se soigne en fait, le thérapeute ne fait que donner les conditions au corps pour que lui-même en fait relance des processus de réparation. Donc le seul qui soigne en fait c'est le corps.
C'est le corps,
le thérapeute lui donne juste le coup de pouce pour que le corps se soigne lui-même, en fait.
Et, tout à fait.
Et dans mon approche, l'amoxibustion est utilisée uniquement dans ce cadre-là, en fait, et dans cette philosophie-là, donner les conditions au corps pour qu'il relance ses processus de réparation. Faire mieux circuler le sang, rétablir la posture, faire mieux circuler la lymphe, soutenir le système nerveux, les portes de sortie, donc les émonctoires,
voilà,
pour que les déchets sortent.
Nettoyer,
voilà, tout ça,
revitaliser. C'est les grands principes hein, de la médecine naturelle, de
la naturopathie.
La naturopathie, voilà, évidemment, médecine chinoise, ayurvédique, et tout à fait, on est en plein dedans. Peut-être on va conclure malheureusement, hein, mais en tout cas, on va te retrouver pour une autre émission, hein, quand tu reviendras tu auras plein de choses à nous raconter, hein, donc je rappelle Gaëtan Wilfried, vous pouvez le retrouver sur son blog, sur son site, sur sa page Facebook avec ce beau projet, si vous voulez l'aider, le soutenir, hein, il est en ce moment du côté de Tours et tu redescends là bientôt
Alors,
rappelle-nous les villes que tu vas.
Voilà, en direction donc de Tours, en direction de Orléans. Et ensuite, je rallie Nevers, Besançon, Strasbourg. Donc, je traverse à l'horizontale vers l'est.
Voilà.
Je rejoins l'Alsace et ensuite, donc, je me trouverai à Aix-en-Provence pour revenir sur Toulouse. Voilà, donc Aix-en-Provence, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse et Montauban.
Voilà, donc Gaëtan, il vous offre des soins, des vraiment de très haut niveau. Il est un des seuls en France à proposer ce genre de soins en moxibustion. Il a simplement besoin, voilà, que de partage en échange d'un repas, d'une douche, d'une lessive, d'une nuit, d'un hébergement, hein, tout au long de son périple. N'hésitez pas à le contacter. Il aura accès à Internet, tous les jours. Et puis voilà, allez à sa rencontre. Franchement, il y a un avant et un après la rencontre de Gaëtan.
Ouais, on ressort inspiré et après on a envie d'inspirer les autres, je crois.
Mais oui. Hein, voilà, Gaëtan Wilfried, une personne très, très inspirante. Merci beaucoup,
merci
Gaëtan.
Merci à toi, Catherine.
Et puis, hein, encore bon courage pour la suite. Plein de bonnes choses, encore plein de belles rencontres et de partage.
Merci beaucoup, Catherine.
Et donc, à très bientôt.
À la rentrée.
Oui, merci beaucoup. Voilà, donc tout de suite une pause musicale avec quelqu'un de la région aussi, Claude Nougaro, Nouga York. À tout de suite.
je suis ad hoc. J'aurai le gros cigare en or, les panchocs. C'est l'aérogare, j'ai senti le choc. Faut rentrer dardard dans la ligne de coq. Un nouveau départ, solide comme un roc. Une pluie de dollars, ici nous gaillons. Ici superstar, je suis gonflé à bloc. C'est l'enfant de l'art, c'est le phalacoque. À moins que la star, au détour d'un bloc. Et son filet car me découpe l'âme façon jambon d'Yorck.
Catherine, dans À votre santé. Donc, tout de suite, je recevais Gaëtan Wilfried pour son super Tour de France à vélo et des soins en moxibustion. Il offre des soins en moxibustion tout au long de son Tour de France. Vous pourrez le contacter via son site, hein, Gaëtan Wilfried, pour lui donner un petit coup de main et puis pour ce partage, parce qu'il vous offre des soins en moxibustion. Et en échange, si vous avez de quoi l'héberger une nuit, de quoi lui offrir un repas. Voilà, franchement, c'est une très très belle personne à découvrir. Il est l'un des seuls en France à maîtriser vraiment cette belle technique de soins que sont les Moxa. Voilà, et tout de suite, donc dans sa chronique, Samuel nous parle de l'intelligence. Bonjour Samuel.
Bonjour Catherine. Ici Samuel, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est assez épineux, c'est la question de l'intelligence. Alors vous allez voir, comme d'hab, je vous fais un lien, un parallèle avec trouver sa voie. Donc, l'intelligence, comment est-ce qu'on fait pour mesurer l'intelligence ? Déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes intelligent ? Est-ce que vous vous considérez comme étant intelligent ? Alors, a priori, il y a de grandes chances que vous pensiez que non. Parce que voilà, il y a des études qui ont montré en fait que les enfants, quand on leur demande s'ils sont intelligents, ils répondent tous oui. Alors que les adultes, c'est beaucoup plus mitigé en fait. Les adultes, souvent, ne se considèrent plus comme étant intelligents. Alors, la problématique, elle vient de que pendant longtemps, on a mesuré l'intelligence avec le test du coefficient intellectuel. Donc c'était un moyen, le seul moyen en fait qu'on avait trouvé pour essayer de classifier, différencier les gens. Alors moi, honnêtement, je suis pas du tout d'accord avec ce test. Je le trouve très inégalitaire et puis surtout, il génère beaucoup de comparaisons en fait entre les gens. Parce qu'il y en a qui pourraient se dire « moi je suis intelligent » et il y en a qui pourraient se dire « moi je suis plus intelligent que toi ». Et pour moi ça pose un problème en fait, parce que du coup ça génère ça peut générer des sentiments de supériorité. Donc moi la part de conscience que je voulais vous faire, c'est que l'intelligence qui est mesurée par le QI, c'est une forme d'intelligence, d'accord ? Mais c'est possible que vous ayez d'autres formes d'intelligence avec lesquelles vous raisonnez, et ça en fait... C'est ce qu'on a découvert avec le chercheur Howard Gardner dans les années 80, donc en 1984 exactement, qui a décelé que chez chaque être humain, en fait, chez chaque individu, nous sommes constitués tous de 8 intelligences. Donc oui, en effet, parmi ces 8 intelligences, l'intelligence logique, elle en fait partie. Mais il y a aussi une intelligence corporelle. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, c'est des intelligences, elles sont localisables dans notre cerveau. On sait exactement où dans notre cerveau à ce à quoi elles correspondent. Donc on a une intelligence corporelle, donc c'est la conscience de votre corps. Vous avez une intelligence interpersonnelle, c'est l'intelligence sociale, capacité à rentrer en relation avec les autres. L'intelligence linguistique, donc ça c'est voilà, tout ce qui est en lien avec le langage, avec l'expression verbale et puis avec la maîtrise d'une langue ou de plusieurs d'ailleurs. Vous avez l'intelligence musicale, rythmique, donc tout ce qui est en lien avec l'apprentissage de la musique, visuel, la capacité à se repérer dans l'espace ou à visualiser des choses qu'on peut ensuite retranscrire dans la réalité, plus visuel graphique. Vous avez intrapersonnel, c'est cette intelligence, cette capacité à se comprendre, à se maîtriser, à chercher à se transformer, comprendre ses émotions. Donc intrapersonnel, se poser des questions sur le sens de la vie, plus existentiel, philosophique. Et enfin, l'intelligence naturaliste. Donc l'intelligence de la nature, c'est la capacité à rentrer en lien, en connexion avec le monde végétal, le monde animal ou bien le monde minéral. Et aussi, quand elle est connectée à la logique, il peut y avoir cette tendance à vouloir chercher à comprendre plus profondément la dimension de la nature, c'est-à-dire sous la classifier en recherchant à travers les sciences de la vie de la Terre ou physique-chimie. Voilà, donc nous avons ces 8 intelligences. Il y a des intelligences pour qui... il y a des personnes qui vont raisonner plus avec certaines intelligences que d'autres. Il y en a qui vont raisonner avec toutes. En fait, on est complètement... on est tous différents, on est tous uniques. On a tous des manières d'apprendre qui vont être différentes. Donc, si on est fort en logique, c'est OK, on va peut-être avoir un test du QI fort. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas un test du QI fort qu'on va pas être fort dans un autre domaine, qu'on peut pas être fort en musique ou qu'on peut pas être fort en corporel ou qu'on peut pas être fort en intelligence sociale. Donc, on peut avoir un QI très fort, mais être nul en social. Donc, en fait, finalement, le QI, vous voyez, c'est pas vraiment la bonne unité de mesure, en fait, à mes yeux. Donc, voilà. Moi, je vous invite à réfléchir. C'est quoi, en fait, votre intelligence phare? Pour ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un papier, un crayon et noter chacune des intelligences et essayer de les évaluer sur une échelle de 0 à 10. OK, mon intelligence, elle serait à quelle échelle entre 0 et 10? Entre 0 et 3, ce serait faible. Entre 3 et 7, ce serait moyen. Et entre 7 et 10, ça veut dire qu'elle vit très fort. J'ai vraiment une grosse capacité à faire cela. Voilà, Catherine, je vous ai parlé des intelligences multiples. C'est vraiment une grande découverte majeure sur les capacités d'apprentissage. Et en fait, ça vient nous montrer que nous sommes tous intelligents. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite capsule. Bonne journée.
Merci, Samuel. Donc tout de suite une petite pause musicale et après je vous retrouve pour un film que j'ai aimé, puis des trucs et astuces, des remèdes contre les piqûres pour cet été. Seal, Kiss from a Rose.
Snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows my eyes become a light and the light that you shine can't be seen.
From a rose on the grave. Ooh, the more I get a
Si vous venez de nous retrouver, Catherine, dans À votre santé, notre émission autour de la santé, du bien-être au naturel. Gaëtan Wilfried est venu nous parler de son projet de Tour de France à vélo en offrant des soins autour de la moxibustion. Samuel vient de nous parler de l'intelligence et moi, tout de suite, j'ai aimé. Je vous propose donc d'aller voir, si ça n'est pas déjà fait, un superbe film, Voyage en pleine conscience, hein, de Max Pug et de Marc Francis. Ce sont donc deux réalisateurs qui ont capturé le quotidien et la philosophie de vie de la communauté du village de Prunier, un petit village situé pas très loin de chez nous, là, dans le sud-ouest. C'est un voyage initiatique sur les pas d'un grand maître bouddhiste zen. Voilà, donc à voir absolument, hein, le voyage en pleine conscience. Il est sorti le 13 juin. Et puis pour cet été, un petit truc et astuce contre les piqûres de guêpes, les piqûres de toutes sortes, la lavande aspic, hein, à avoir dans sa trousse à pharmacie, lavandula aspica, une goutte sur les piqûres d'animaux, que ce soit les guêpes, les méduses, les scorpions, c'est très efficace, mais aussi contre pour soulager les morsures d'animaux venimeux, hein, comme les serpents, et même en cas de brûlure, même sévère, hein, c'est cette huile, la lavande aspic, elle soulage vraiment, et elle a plein d'autres indications. Je vous en parlerai une autre fois parce que c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Passez un très très bel été. Prenez soin de vous. Restez à l'écoute de CFM, mais surtout restez à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Ciao.